dans mon roman Vendredi ou les lames du Pacifique, j'ai réécrit un Robinson Crusoe,
Michel Tournier,
de notre époque, car il m'a semblé que notre époque était dominée par le rôle nouveau de l'homme de couleur, de l'homme du tiers-monde. Et que donc, dans l'histoire de Robinson Crusoe, le personnage important, c'était Vendredi.
Ça peut pas faire de mal.
Vendredi, c'est l'homme de couleur qui apparaît brusquement face à l'homme occidental. Et l'homme occidental s'aperçoit, à ce moment-là, que sa civilisation occidentale doit être critiquée. En tout cas, qu'elle n'est pas universelle. Et qu'il peut y en avoir d'autres. Que les gens de couleur ont quelque chose à nous dire. Que ce ne sont pas des brutes. Que ce ne sont pas des primitifs.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Le capitaine Van Dessel et Robinson jouaient tranquillement aux cartes pendant qu'au dehors, l'ouragan se déchaînait. On était au milieu du XVIIIe siècle, alors que beaucoup d'Européens, principalement des Anglais, allaient s'installer en Amérique pour faire fortune. Robinson avait laissé en Angleterre sa femme et ses deux enfants pour explorer l'Amérique du Sud. Quelques semaines plus tôt, la Virginie avait contourné le continent américain en passant bravement le terrible Cap Horn. Maintenant, le navire remontait vers Valparaiso, où Robinson voulait débarquer. « Ne croyez-vous pas que cette tempête va beaucoup retarder notre arrivée au Chili ?» demanda-t-il au capitaine en battant les cartes. Le capitaine le regarda avec un petit sourire ironique en caressant son verre de genièvre, son alcool préféré. Il avait beaucoup plus d'expérience que Robinson et se moquait souvent de son impatience de jeune homme. « Voyez-vous, » dit-il après avoir tiré une bouffée de sa longue pipe de porcelaine, « l'avantage des tempêtes, c'est qu'elles vous libèrent de tout souci. Contre les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire. Alors on ne fait rien, on s'en remet au destin. » À ce moment-là, le fanal suspendu à une chaîne qui éclairait la cabine accomplit un violent arc de cercle et éclata contre le plafond. Avant que l'obscurité totale se fasse, Robinson eut encore le temps de voir le capitaine plonger la tête la première par-dessus la table. Robinson se leva et se dirigea vers la porte. Un courant d'air lui apprit qu'il n'y avait plus de porte. Dans la vague lueur de la pleine lune balayée par les nuages, Robinson distingua sur le pont un groupe d'hommes qui s'efforçaient de mettre à l'eau un canot de sauvetage. Il se dirigeait vers eux pour les aider quand un choc formidable ébranla le navire. Aussitôt après, une vague gigantesque croula sur le pont et balaya tout ce qui s'y trouvait, les hommes comme le matériel. Ainsi commence l'un des mythes les plus célèbres de la littérature, immortalisé par l'écrivain Daniel Defoe en 1719, l'histoire de Robinson Crusoe, un marin anglais, seul survivant d'un équipage emporté par la tempête, qui fait naufrage sur une île déserte au large des côtes américaines. Ce récit s'inspire de faits réels, la mésaventure d'un matelot anglais, Alexander Selkirk, vendu en 1709 par des pirates et abandonné pendant 3 ans sur une île au large du Chili. La suite, vous la connaissez. Alors qu'il se croit seul sur l'îlot dont il s'autoproclame gouverneur, Robinson découvre l'existence d'un homme sauvage et baptise l'inconnu du jour de leur rencontre, Vendredi. Ce nom inspirera par 2 fois l'écrivain français Michel Tournier, né en 1924 et décédé en 2016 à l'âge de 91 ans. Ses œuvres sont désormais réunies en Pléiade. En 1967, il publie son premier roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui devient un best-seller. En 1971, il en rédige une version pour enfants, intitulée Vendredi ou la vie sauvage. Ouvrons ce roman d'apprentissage où s'affrontent 2 visions du monde et leurs concepts opposés, la nature et la culture, le travail et le loisir, la discipline et la liberté. Quelle partie choisiriez-vous? Comme Robinson Crusoe, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Retrouvons notre homme en bien mauvaise posture. Le lendemain du naufrage, Robinson se réveille seul sur une plage, à quelques mètres du navire échoué. Sans perdre courage, il explore la nature environnante et comprend qu'il est sur une île déserte. Son premier réflexe est de tout faire pour signaler sa présence. Il élève un mât qu'il espère visible depuis la mer. Il entretient un feu dans un tronc d'arbre creux afin que la fumée s'élève haut dans le ciel. Pour survivre, il trouve refuge dans une grotte et s'entoure des objets qu'il a pu sauver à bord du Virginie. des vivres, des outils et une Bible, dont il s'inspire pour entreprendre un grand chantier, fabriquer un bateau sur le modèle de l'Arche de Noé. À force de ténacité, il parvient à construire un navire qu'il baptise l'Évasion. Mais trop lourd et trop éloigné du rivage, il ne peut le mettre à flot. C'est alors qu'un grand danger le menace, non pas celui qu'il pourrait craindre du monde sauvage, mais celui lié à sa propre nature humaine, la tentation de céder au désespoir. Découragé par l'échec de l'Évasion, Robinson avait eu l'occasion de suivre un jour un troupeau de pécaris qu'il avait vu s'enfouir dans leur souille. Il était si triste et si fatigué qu'il avait eu envie de faire comme ces sangliers sauvages. Il avait enlevé ses vêtements et il s'était laissé glisser dans la boue fraîche, en ne laissant passer à la surface que son nez, ses yeux et sa bouche. Il passait des journées entières couché ainsi au milieu des lentilles d'eau, des nénuphars et des œufs de grenouille. Les gaz qui se dégageaient de l'eau croupie lui troublaient l'esprit. Parfois, il se croyait encore dans sa famille, à York. Il entendait les voix de sa femme et de ses enfants. Ou bien il s'imaginait être un petit bébé dans un berceau et il prenait les arbres que le vent agitait au-dessus de sa tête pour des grandes personnes penchées sur lui. Quand il s'arrachait le soir à la boue tiède, la tête lui tournait. Il ne pouvait plus marcher qu'à quatre pattes et il mangeait n'importe quoi, le nez au sol comme un cochon. Il ne se lavait jamais et une croûte de terre et de crasse séchée le couvrait des pieds à la tête. Un jour, qu'il broutait une touffe de cresson dans une mare, il crut entendre de la musique. C'était comme une symphonie du ciel, des voix d'anges accompagnées par des accords de harpe. Robinson pensa qu'il était mort et qu'il entendait la musique du paradis. Mais en levant les yeux, il vit pointer une voile blanche à l'horizon. Il se précipita jusqu'au chantier de l'Évasion où traînaient ses outils et où il retrouva son briquet. Puis il courut vers l'eucalyptus creux, enflamma un fagot de branches sèches, mais le feu parut tarder à prendre. D'ailleurs, à quoi bon ? Le navire se dirigeait droit vers l'île. Bientôt, il allait jeter l'ancre à proximité de la plage et une chaloupe allait s'en détacher. Avec des rires de fou, Robinson courait en tous sens à la recherche d'un pantalon et d'une chemise qu'il finit par retrouver sous la coque de l'Évasion. Puis il courut vers la plage, tout en se griffant le visage pour démêler la barbe et les cheveux qui lui faisaient un masque de bête. Le navire était tout prêt maintenant, et Robinson le voyait distinctement incliner gracieusement toute sa voilure vers les vagues crêtées d'écume. C'était un de ces galions espagnols qui rapportaient autrefois à travers l'océan l'or, l'argent et les pierres précieuses du Mexique. À mesure qu'il approchait, Robinson distinguait une foule brillante sur le pont. Une fête paraissait se dérouler à bord. La musique provenait d'un petit orchestre et d'un chœur d'enfants en robe blanche groupés sur le pont arrière. Des couples dansaient noblement autour d'une table chargée de vaisselle d'or et de cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé, ni même le rivage que le navire longeait maintenant après avoir viré de bord. Robinson le suivait en courant sur la plage. Il hurlait, agitait les bras, s'arrêtait pour ramasser des galets qu'il lançait dans sa direction. Il tomba, se releva, tomba encore. Le galion arrivait maintenant au bout de la plage. Robinson se jeta à l'eau et nagea de toutes ses forces vers le navire. À l'une des fenêtres arrière, une jeune fille était accoudée et souriait tristement vers lui. Robinson connaissait cet enfant. Il en était sûr. Mais qui était-ce ? Il ouvrit la bouche pour l'appeler. L'eau salée envahit sa gorge. Ses yeux ne virent plus que de l'eau verte. Une colonne de flammes le tira de son évanouissement. Comme il avait froid. Là-haut, sur la falaise, l'eucalyptus flambait comme une torche dans la nuit. Robinson se dirigea en titubant vers cette source de lumière et de chaleur. Il passa le reste de la nuit recroquevillé dans les herbes, le visage tourné vers le tronc incandescent. Vers les premières heures de l'aube, il parvint enfin à identifier la jeune fille du galion. C'était sa propre sœur, Lucie, morte plusieurs années avant son départ. Ainsi, ce bateau, ce galion, type de navire qui avait d'ailleurs disparu des mers depuis plus de deux siècles, n'existait pas. C'était une hallucination, un produit de son cerveau malade. Robinson comprit enfin que les bains dans la souille et toute cette vie paresseuse qu'il menait étaient en train de le rendre fou. Le galion imaginaire était un sérieux avertissement. Il fallait se ressaisir, travailler, prendre son propre destin en main.
Il y a quelqu'un ?
S'il a peur de régresser à l'état animal, Robinson trouve bientôt son salut en la compagnie d'un animal, le plus fidèle ami de l'homme. Pour éviter de retomber dans la souille, Robinson s'est fixé un programme de travail intensif. Domestiquer les chèvres sauvages, cultiver des céréales, creuser des rizières. il note scrupuleusement le résultat de ses avancées dans un journal de bord intitulé « Speranza », du nom dont il baptise son île, se promettant de ne jamais plus perdre espoir. Ses efforts sont enfin récompensés par une bonne surprise. C'est peu après cette première récolte que Robinson eut la très grande joie de retrouver Ten, le chien de la Virginie. L'animal jaillit d'un buisson en gémissant et en se tordant l'échine, faisant ainsi une vraie fête à ce maître d'autrefois. Robinson ne sut jamais comment le chien avait passé tout ce temps dans l'île, ni pourquoi il n'était pas venu plus tôt à lui. La présence de ce compagnon le décida à mettre à exécution un projet qu'il avait depuis longtemps, se construire une vraie maison et ne plus continuer à dormir dans un coin de la grotte ou au pied d'un arbre. Il situa sa maison près du grand cèdre, au centre de l'île. Il creusa d'abord un fossé rectangulaire qu'il meubla d'un lit de galets recouvert eux-mêmes d'une couche de sable blanc. Puis il éleva des murs en mettant l'un sur l'autre des troncs de palmiers. La toiture se composa d'une vannerie de roseaux sur laquelle il disposa ensuite des feuilles de figuier caoutchouc en écailles, comme des ardoises. Un dallage de pierres plates et irrégulières, assemblées comme les pièces d'un puzzle, recouvrit le sol sablonneux. Des pots de bique et des nattes de jonc, quelques meubles en osier, la vaisselle et les fanaux sauvés de la Virginie, la longue vue, le sabre et l'un des fusils suspendus au mur, créèrent une atmosphère confortable et intime que Robinson n'avait plus connue depuis longtemps. Il prit même l'habitude, ayant déballé les vêtements contenus dans les coffres de la Virginie, et certains étaient fort beaux, de s'habiller chaque soir pour dîner, avec habits, hauts de chausses, chapeaux, bas et souliers. Robinson n'avait jamais été coquet, et il n'aimait pas particulièrement se regarder dans les glaces. Pourtant, il fut tout surpris un jour, en sortant un miroir d'un des coffres, de revoir son propre visage. En somme, il n'avait pas tellement changé, si ce n'est peut-être que sa barbe avait allongé et que de nombreuses ridelles nouvelles sillonnaient son visage. Ce qui l'inquiétait tout de même, c'était l'air sérieux qu'il avait, une sorte de tristesse qui ne le quittait jamais. Il essaya de sourire. Là, il éprouva comme un choc en s'apercevant qu'il n'y arrivait pas. Il avait beau se forcer, il ne savait plus sourire. Il avait l'impression maintenant d'avoir une figure en bois, un masque immobile. À force de réfléchir, il finit par comprendre ce qui lui arrivait. C'était parce qu'il était seul. Depuis trop longtemps, il n'avait personne à qui sourire, et il ne savait plus. Ainsi, il avait tout ce qu'il fallait sur cette île, de quoi boire et manger, une maison, un lit pour dormir. Mais pour sourire, personne. Et son cœur se serrait de tristesse. C'est alors que ses yeux s'abaissèrent vers Ten. Robinson rêvait-il ? Le chien était en train de lui sourire. D'un seul côté de sa gueule, la lèvre noire se soulevait. En même temps, il inclinait drôlement la tête et ses yeux couleur noisette se plissaient d'ironie. Robinson saisit à deux mains la grosse tête velue et ses paupières se mouillèrent d'émotion. Ten faisait toujours la grimace et Robinson le regardait passionnément pour réapprendre à sourire. Désormais, ce fut comme un jeu entre eux. Tout à coup, Robinson interrompait son travail, ou sa chasse, ou sa promenade sur la grève, et il fixait Ten d'une certaine façon. Et le chien lui souriait à sa manière. Cependant que le visage de Robinson redevenait souple, humain, et souriait peu à peu à son tour.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
On m'avait dit dans mon enfance, saisis la chance, car elle ne passe qu'une fois. Je n'ai pas cru à ce proverbe pour les imberbes de la pensée qui croit aux lois. Je n'ai jamais suivi Panurge et qui qui s'insurge, jamais résigné, me ravit. Je crois toujours que tout arrive sur l'autre rive sans préavis. Disponible aux gens au présent.
Malgré la compagnie de son chien, Robinson connaît une autre phase de régression. Alors qu'il poursuit assidûment son œuvre de civilisation de l'île, Robinson Crusoé ressent soudain la vanité de son entreprise. Une nouvelle crise de désespoir le submerge. Mais au lieu de s'abandonner dans la boue, il choisit de s'isoler dans la grotte qui lui sert de lieu de stockage pour ses récoltes. Au fond de la cavité, il découvre un passage inexploré, étroit et sombre. Enfin, il se décida à se lever et à se diriger vers le fond de la grotte. Il n'eut pas à tâtonner longtemps pour trouver ce qu'il cherchait, l'orifice d'une cheminée verticale et fort étroite. Il fit aussitôt quelques tentatives pour s'y laisser glisser. Les parois du boyau étaient lisses comme de la chair, mais le trou était si étroit qu'il y demeurerait prisonnier à mi-corps. Alors il eut l'idée d'enlever tous ses vêtements et de se frotter tout le corps avec le lait caillé qui restait au fond du pichet. Puis il plongea la tête la première dans le goulot, et cette fois, il glissa lentement mais régulièrement, comme une grenouille dans le gosier du serpent qu'il avale. Il arriva mollement dans une sorte de niche tiède, dont le fond avait exactement la forme de son corps accroupi. Il s'y installa, recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets croisés, les mains posées sur les pieds. Il était si bien ainsi qu'il s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, quelle surprise! L'obscurité était devenue blanche autour de lui. Il n'y voyait toujours rien, mais il était plongé dans du blanc et non plus dans du noir. Et le trou où il était ainsi tapi était si doux, si tiède, si blanc qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Il se croyait dans les bras de sa maman qui le berçait en chantonnant. Son père, drapier, était un homme petit et maladif, mais sa mère était une grande femme, forte et calme, qui ne se fâchait jamais mais qui devinait toujours la vérité rien qu'à regarder ses enfants. Un jour qu'elle était au premier étage avec tous ses enfants et que le père était absent, le feu se déclara dans le magasin du rez-de-chaussée. Son père était revenu en hâte et il se lamentait et courant en tous sens dans la rue en voyant brûler sa maison avec sa femme et ses enfants. Tout à coup, il vit son épouse sortir tranquillement d'un torrent de flammes et de fumée avec tous ses enfants qu'elle portait sur ses épaules, sur ses bras, sur son dos, pendus à son tablier. C'était ainsi que Robinson la revoyait au fond de son trou, comme un arbre pliant sous le poids de tous ses fruits. Ou alors, c'était la fête des rois. Elle pétrissait la pâte dans laquelle était cachée la fève. Il semblait à Robinson que toute l'île de Speranza était un immense gâteau et qu'il était lui-même la petite fève cachée au fond de la croûte. Il comprit qu'il fallait qu'il sorte de son trou s'il ne voulait pas y rester à tout jamais. Il s'en arracha avec peine et se hissa par le goulot. Parvenu au fond de la grotte, il retrouva à tâtons ses vêtements qu'il roula en boule sous son bras sans prendre le temps de se rhabiller. Il était inquiet parce que l'obscurité blanche persistait autour de lui. Serait-il devenu aveugle ? Il avançait en chancelant vers la sortie quand tout à coup, la lumière du soleil le frappa en pleine figure. C'était l'heure la plus chaude de la journée, celle où même les lézards cherchent l'ombre. Pourtant, Robinson grelottait de froid, encore tout mouillé de l'écaillé. Il se sauva vers sa maison, la figure cachée dans ses mains. Ten gambadait autour de lui, tout heureux d'avoir retrouvé son maître, mais déconcerté de le voir si nu et si faible. Le temps passe. Enfin, un événement exceptionnel met fin à la solitude de Robinson. Un jour, notre ermite remarque une fumée qui s'élève de la plage. Méfiant, il s'arme d'un fusil et s'approche à couvert. Il découvre un effrayant spectacle. Des Indiens de la tribu Arhuacans, originaires du Chili, ont accosté sur l'île pour y pratiquer un sacrifice humain. De retour chez lui, il déclare dans son journal l'état d'urgence sur Speranza et se proclame général. Quelque temps plus tard, le même signal se manifeste. Il y avait cette fois trois pirogues à balancier posées parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du feu était d'ailleurs plus vaste que la première fois, et Robinson, en les examinant à la longue vue, crut remarquer qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Un malheureux avait déjà été coupé à coups de machette, et deux guerriers revenaient du bûcher où ils avaient jeté ses morceaux. C'est alors qu'eut lieu un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre de cérémonie. La sorcière, qui était accroupie sur le sol, se releva d'un coup, courut vers l'un des hommes, et tendant vers lui son bras maigre, elle ouvrit la bouche toute grande pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait sans pouvoir les entendre. Ainsi, il y aurait une seconde victime ce jour-là. Visiblement, les hommes hésitaient. Finalement, l'un d'eux se dirigea, une machette à la main, vers le coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois, et le pagne de cuir vola en l'air. Elle allait retomber sur le corps nu quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança en avant vers la forêt. Dans la longue vue de Robinson, il paraissait sauter sur place, poursuivi par deux Indiens. En réalité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait de peau plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu'à un Indien. C'était peut-être cela qui l'avait fait désigner comme coupable, parce que dans un groupe d'hommes, celui qui ne ressemble pas aux autres est toujours détesté. Cependant, il s'approchait de seconde en seconde et son avance sur ses deux poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu'on ne pouvait le voir de la plage, sinon il aurait pu croire que l'Indien en cavale l'avait aperçu et venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui et ils allaient peut-être se réconcilier en le prenant lui comme victime. C'est le moment que choisit Ten pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et lui passant le bras autour du cou, lui serra le museau dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait tant bien que mal son fusil d'une seule main. Il visa au milieu de la poitrine le premier poursuivant qui n'était plus qu'à 30 mètres et pressa la détente. Au moment où le coup partait, Ten fit un brusque effort pour se libérer. Le fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plongeon et s'étala dans le sable. L'Indien qui le précédait s'arrêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le rideau d'arbres où s'achevait la plage et finalement s'enfuit à toutes jambes vers le cercle des autres Indiens. À quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l'Indien rescapé inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque. Longtemps, Robinson se demanda comment il appellerait l'Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien tant qu'il ne serait pas baptisé. Il décida finalement de lui donner le nom du jour où il l'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de l'île s'appela Vendredi.
Vous avez un homme, un Anglais,
Michel Tournier,
du XVIIIe siècle, qui a la chance inouïe d'être arraché à la société corruptrice, et jeté dans une île déserte, une île vierge. C'est merveilleux. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de se mettre à l'école de la nature, de respecter cette île vierge, il va y introduire la civilisation. Il va se mettre à exploiter cette île comme une possession anglaise. Il la saccage, en réalité. Et puis, le bon sauvage, c'est une invention de Jean-Jacques Rousseau, il y a des sauvages qui arrivent dans son île, il les massacre. Et puis, il arrive tout de même à en sauver un, Vendredi. Vous croyez peut-être qu'il va se mettre à l'école de Vendredi, lui dire « Vendredi, apprends-moi comment on vit selon la nature dans une île déserte ». Pas du tout, il fait le contraire, il civilise. Vendredi, autant dire qu'il le corrompt.
En tant que gouverneur de l'île de Speranza, obéissant à ses instincts de colonisateur blanc, Robinson soumet Vendredi à un rythme de travail effréné et en fait son serviteur. Mais Vendredi ne renonce pas à son tempérament espiègle et préfère le jeu et l'oisiveté. Voici une scène pittoresque où tous les efforts de gestion de l'île par Robinson partent littéralement en fumée. La vie reprit son cours tant bien que mal. Robinson faisait toujours semblant d'être le gouverneur et le général de l'île. Vendredi faisait semblant de travailler durement pour entretenir la civilisation dans l'île. Il n'y avait que Ten qui ne faisait pas semblant de faire la sieste toute la journée. En vieillissant, il devenait de plus en plus gros et lent. Vendredi, lui, avait trouvé un nouveau passe-temps. Il avait découvert la cachette où Robinson dissimulait le barillet à tabac et la longue pipe en porcelaine du capitaine Van Dessel. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il allait fumer une pipe dans la grotte où Robinson, à côté des vivres, avait entreposé les 40 tonneaux de poudre clandestins que transportait la Virginie. Si Robinson le découvrait, il le punirait sans doute lourdement, parce qu'il n'y avait presque plus de tabac. Fumer était un plaisir que Robinson ne s'accordait plus que très rarement dans les grandes occasions. Ce jour-là, Robinson était descendu sur le rivage inspecter les lignes de fond que la marée descendante venait de recouvrir. Vendredi mit le barillet sous son bras et il alla s'installer au fond de la grotte. Là, il s'était construit une sorte de chaise longue avec des tonneaux couverts de sacs. À demi renversé en arrière, il tire de longues bouffées de la pipe. Puis il chasse de ses poumons un nuage bleu qui s'épanouit dans la faible lumière provenant de l'entrée de la grotte. Il s'apprête à tirer une nouvelle bouffée de la pipe quand des cris et des aboiements lointains lui parviennent. Robinson est revenu plus tôt que prévu et il l'appelle d'une voix menaçante. Ten jappe, un claquement retentit. Robinson a donc sorti son fouet. Sans doute s'est-il enfin aperçu de la disparition du barillet de tabac. Vendredi se lève et marche vers le châtiment qui l'attend. Soudain, il s'arrête. Que faire de la pipe qu'il tient toujours à la main ? Il la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte, là où sont rangés les tonneaux de poudre. Puis, bravement, il va rejoindre Robinson. Robinson est furieux. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre font explosion. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit, avant de s'évanouir, les gros rochers qui surmontent la grotte rouler les uns sur les autres comme les pièces d'un jeu de construction. En ouvrant les yeux, Robinson vit d'abord un visage penché sur lui. L'Indien sourit et se releva en le voyant remuer. Aussitôt, une partie de sa chemise et de son pantalon, déchirés et noircis, tombèrent sur le sol. Il éclata de rire. Robinson se leva et arracha à son tour les loques carbonisées qui s'attachaient encore à lui. La maison brûlait comme une torche. Les deux hommes contemplaient ce champ de désolation. Le soir tombait et ils venaient enfin de retrouver un objet intact, la longue vue, lorsqu'ils découvrirent le cadavre de Ten, au pied d'un arbre. Pauvre Ten, si vieux, si fidèle. L'explosion l'avait peut-être fait mourir tout simplement de peur. Le vent se leva. Ils allèrent ensemble se laver dans la mer. Puis ils s'étendirent au pied du grand cèdre pour essayer de dormir. Robinson réfléchissait en regardant la lune entre les branches noires. Ainsi, toute l'œuvre qu'il avait accomplie sur l'île, ses cultures, ses élevages, ses constructions, toutes les provisions qu'il avait accumulées dans la grotte, tout cela était perdu de la faute de vendredi. Et pourtant, il ne lui en voulait pas. La vérité, c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière, mais qu'il n'avait pas le courage de la détruire. Maintenant, ils étaient libres, tous les deux. Robinson se demandait avec curiosité ce qui allait se passer, et il comprenait que ce serait désormais vendredi qui mènerait le jeu.
J'aurais pu vouloir écrire un roman ethnographique. J'ai fait plutôt le roman de la solitude, une solitude qui est décapante pour l'homme civilisé et qui est ensuite aidée dans ses derniers retranchements par Vendredi, qui arrive, qui est simplement l'étranger, qui ne comprend rien à toute la civilisation anglaise que Robinson véhicule avec lui, qui aide Robinson à se débarrasser de tout cela, et ensuite qui l'aide à créer des choses nouvelles, totalement nouvelles, qui ne sont ni anglaises ni araucaniennes, et qui sont une nouvelle musique, un nouveau rapport avec la nature, un nouvel érotisme, une nouvelle théologie.
Une vie nouvelle commence en effet pour les deux compagnons. Après des années de dur labeur, Robinson se libère enfin des dictats de la morale occidentale. Il découvre la joie de se sentir en grandes vacances. Vendredi lui transmet d'autres manières de survivre sur l'île. Il lui apprend à s'exposer nu au soleil, à dormir dans un hamac, à cuisiner au feu de camp. En contact avec la beauté de la nature, c'est l'Indien qui initie Robinson à une discipline inattendue, la poésie. Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre l'anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite et il lui disait « Marguerite ». Et Vendredi répétait « Marguerite ». Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant lentement « chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source ». Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour, cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe et il lui dit « Marguerite ». « Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. « Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. » Ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. Un papillon blanc, rétorqua Vendredi. C'est une marguerite qui vole. Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquillages, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors il leva la main vers la lune et dit à Robinson « Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Peu à peu, Vendredi révèle sa vraie nature, poétique et aérienne, tandis que Robinson, le terrien, tente de s'élever à de nouveaux horizons. Un jour, Vendredi tombe littéralement amoureux d'une charmante créature, Anda, une petite chèvre blessée qu'il recueille, soigne et souhaite garder près de lui. Mais bientôt, il doit affronter son grand rival, Andohar, le bouc le plus fort du troupeau. Après un combat au corps à corps, Vendredi sort victorieux. Habile de ses mains et inventif, il décide alors de fabriquer le plus beau des trophées. Pendant ce temps, Robinson part à la conquête des cimes. Depuis sa plus petite enfance, Robinson était sujet au vertige. Monter debout sur une chaise suffisait à lui donner un malaise. Aussi, chaque matin, s'efforçait-il de monter dans un arbre pour s'aguerrir. Autrefois, il aurait trouvé cet exercice inutile et ridicule. Depuis qu'il vivait en prenant Vendredi pour modèle, il jugeait important de se débarrasser de son terrible vertige. Il avait choisi ce matin-là un araucaria, un des plus grands arbres de l'île. À mesure qu'il grimpait, il sentait davantage l'arbre vibrer et se balancer dans le vent. Le vertige commençait à lui contracter l'estomac. Il approchait de la cime vide quand il se trouva tout à coup suspendu dans le vide. L'angoisse le paralysa et il serra le tronc dans ses bras et entre ses jambes. Enfin, il comprit qu'il fallait regarder non pas au-dessous de lui, mais au-dessus de lui. Il leva les yeux. Dans le ciel bleu, un grand oiseau d'or en forme de losange se balançait au gré du vent. Vendredi avait exécuté sa mystérieuse promesse. Il faisait voler en dehors. Vendredi avait d'abord ligaturé 3 baguettes de jonc en forme de croix. Sur le cadre léger et robuste ainsi obtenu, il avait déposé la peau séchée d'en dehors en rabattant et en cousant ses bords sur le boyau. Les deux extrémités de la baguette la plus longue étaient réunies par une ficelle assez lâche à laquelle était nouée la corde du cerf-volant en un point soigneusement calculé, car de là dépendait son inclinaison dans le vent. Vendredi avait travaillé dès les premières lueurs de l'aube à son cerf-volant, et le grand oiseau de peau à peine terminé s'agitait dans le vent entre ses mains comme s'il était impatient de prendre son vol. Sur la plage, l'Indien avait crié de joie au moment où Andohar, courbé comme un arc, était monté en fusée, entraînant une guirlande de plumes blanches et noires. Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le rejoindre. Il le trouva couché sur le sable, les mains croisées derrière la nuque, la chevrette Anda roulée en boule à ses pieds. La corde du cerf-volant était attachée à sa cheville. Robinson s'étendit près de lui, et longtemps ils regardèrent tous deux le vol capricieux d'Andohar au milieu des nuages, qui montait et plongeait, vibrait sous une rafale et s'affaissait tout à coup parce que le vent faiblissait. Tout à coup, Vendredi sauta sur ses pieds et sans détacher la corde du cerf-volant, toujours nouée à sa cheville, il mima la danse aérienne d'Andohar. Riant et chantant, il s'accroupit en boule sur le sol, puis bondit en levant les bras, retomba, projeta sa jambe gauche vers le ciel, tournoya, accompagné par les gambades d'Anda. Et là-haut, très loin dans les nuages, le bel oiseau d'or, attaché par 300 mètres de fil à la cheville de l'Indien, l'accompagnait dans sa danse, virevoltait, plongeait, bondissait avec lui. Avançons encore dans le temps et assistons à un autre événement miraculeux. La vie s'écoule paisiblement avec légèreté, Robinson le terrien et Vendredi l'aérien partageant diverses occupations dans un même esprit de jeu. La chasse, la pêche, les promenades, les baignades, les exercices physiques et les inventions de toutes sortes. Soudain, un bateau anglais apparaît au large de l'île Speranza. Des sentiments contradictoires animent alors les deux compagnons. Faut-il se réjouir ou craindre la fréquentation d'hommes civilisés ? Au comble de l'excitation, Vendredi monta au sommet d'un arbre. Il avait emporté la longue vue qu'il braqua sur le navire nettement visible. C'était une goélette à hunier, un fin voilier taillé par la course avec ses deux hauts mâts dont le premier, le mât de misaine, portait une voile carrée, le second, une voile triangulaire. Elle filait bien à 12 nœuds et se dirigeait droit vers la côte marécageuse de l'île. Vendredi se hâta d'aller donner ses précisions à Robinson qui passait un gros peigne d'écaille dans sa crinière rouge. Robinson était peut-être ému, mais il n'en laissait rien paraître. « Nous allons avoir de la visite, » dit-il simplement. « Raison de plus pour que j'achève ma toilette. » Vendredi regrimpa dans son observatoire. Le commandant avait dû se rendre compte que la côte n'était pas abordable de ce côté-là de l'île, car le navire virait de bord. Puis il réduisit sa voile et courut à petite voile le long du rivage. Vendredi alla avertir Robinson que le visiteur doublait les dunes et jetterait l'ancre très probablement dans la baie du Salut. Il importait avant toute chose de reconnaître sa nationalité. Robinson avança jusqu'au dernier rideau d'arbres bordant la plage et braqua sa longue vue sur le navire qui stoppait à 2 encablures du rivage. Quelques instants plus tard, on entendit la chaîne de l'ancre tinter en se déroulant. Robinson ne connaissait pas ce type de bateau qui devait être récent, mais il reconnut l'Union Jack, le drapeau anglais qui flottait à l'arrière. L'équipage avait mis une chaloupe à la mer et déjà les avirons battaient les flots. Robinson était très ému. Il ne savait plus depuis combien de temps il était dans l'île, mais il avait l'impression d'y avoir passé la plus grande partie de sa vie. On raconte qu'avant de mourir, un homme revoit souvent tout son passé étalé devant lui comme un panorama. C'était un peu le cas de Robinson, qui revoyait le naufrage, la construction de l'évasion, son échec, la grande misère de la souille, l'exploitation frénétique de l'île, puis l'arrivée de vendredi, les travaux que Robinson lui avait imposés, l'explosion, la destruction de toute son œuvre. Et ensuite, c'était une longue vie heureuse et douce, pleine de jeux violents et sains et des inventions extraordinaires de vendredi. Est-ce que tout cela allait prendre fin ? Dans la chaloupe s'amoncelaient les petits tonneaux destinés à renouveler les provisions d'eau douce du navire. À l'arrière, on voyait debout, le chapeau de paille incliné sur une barbe noire, un homme botté et armé, le commandant sans doute. L'avant de l'embarcation racla le fond et se souleva avant de s'immobiliser. Les hommes sautèrent dans l'écume des vagues et tirèrent la chaloupe sur le sable. La barbe noire tendit la main à Robinson et se présenta. « William Hunter, de Blackpool, commandant de la goélette le Whitebird. » « Quel jour sommes-nous ? » lui demanda Robinson. Étonné, le commandant se tourna vers l'homme qui le suivait et qui devait être son second. « Quel jour sommes-nous, Joseph ?»«
Le samedi 22 décembre 1787, sir, » répondit-il.
« Le samedi 22 décembre 1787, » répéta le commandant. Le cerveau de Robinson travailla à vive allure. Le naufrage de la Virginie avait eu lieu le 30 septembre 1759. Il y avait donc exactement 28 ans, 2 mois et 22 jours. Il ne pouvait imaginer qu'il soit resté si longtemps dans l'île. Cependant, vendredi aidait les hommes à décharger les tonnelets et il les guidait vers le plus proche point d'eau. Robinson comprit que si l'Indien s'empressait si gentiment au service des matelots, c'était dans l'espoir qu'il l'emmènerait le plus tôt possible à bord du Whitebird. Lui-même devait s'avouer qu'il brûlait d'envie de visiter ce fin voilier, merveilleusement construit pour battre tous les records de vitesse et qui devait être pourvu des derniers perfectionnements de la marine à voile. En attendant, le commandant Hunter, le second Joseph et tous les hommes qu'il voyait s'affairer autour de lui paraissaient laids, grossiers, brutaux et cruels. Et il se demandait s'il arriverait à reprendre l'habitude de vivre avec ses semblables. Nous voici bientôt parvenus à la fin de notre roman d'aventure. Invité à visiter le navire, Robinson est en proie à un dilemme. Rester sur l'île ? Abandonner du monde ? Ou rejoindre la société des hommes ? Après un repas copieux auquel il n'est plus habitué, il profite du temps de la sieste pour méditer à son sort. De son côté, vendredi se passionne pour les voiles et grimpe sur les cordages à l'assaut du ciel. Enfin, pour Robinson, la décision qu'il doit prendre lui apparaît comme une révélation. Robinson alla s'étendre sur le pont pour faire la sieste, comme il en avait l'habitude. Au-dessus de lui, la pointe du mât de Hune décrivait des cercles irréguliers dans un ciel parfaitement bleu, où s'était égaré un croissant de lune translucide. En tournant la tête, il voyait Speranza, une bande de sable blond, puis un amas de verdure, enfin l'entassement du chaos rocheux. C'est alors qu'il comprit qu'il ne quitterait jamais l'île. Ce Whitebird, avec ses hommes, c'était l'envoyé d'une civilisation où il ne voulait pas retourner. Il se sentait jeune, beau et fort, à condition de demeurer à Speranza avec vendredi. Sans le savoir, Joseph et Hunter lui avaient appris que pour eux, il avait 50 ans. S'il s'en allait avec eux, il serait un vieil homme aux cheveux gris, à l'allure digne, et il deviendrait bête et méchant comme eux. Non, non, il resterait fidèle à la vie nouvelle que lui avait enseignée vendredi. Lorsqu'il fit part de sa décision de demeurer sur l'île, seul Joseph manifesta de la surprise. Hunter n'eut qu'un sourire glacé. Au fond, il était peut-être soulagé de n'avoir pas deux passagers supplémentaires à embarquer sur un navire étroit où la place est chichement distribuée. « Je considère tout le ravitaillement et l'or que nous avons embarqué comme l'effet de votre générosité, » lui dit-il sournoisement. « En souvenir de notre passage à Speranza, permettez-moi de vous offrir notre petite yole de repérage. » C'était un canot léger et de bonne tenue. Il remplacerait avantageusement la vieille pirogue de vendredi.
C'est dans cette embarcation que Robinson et son compagnon regagnèrent l'île comme le soir tombait. En reprenant pied sur ses terres, Robinson éprouva un immense soulagement. Le White Bird et ses hommes avaient apporté le désordre et la destruction dans l'île heureuse où il avait mené une vie idéale avec Vendredi. Mais qu'importait ? Aux premières lueurs de l'aube, le navire anglais lèverait l'ancre et reprendrait sa place dans le monde civilisé. Robinson avait fait comprendre au commandant qu'il ne souhaitait pas que l'existence et la position de son île sur la carte fussent révélées par l'équipage du White Bird. Le commandant avait promis, et Robinson et Vendredi avaient encore de belles et longues années de solitude devant eux.
Vous dites, et enfin, on le pense en le lisant, que Robinson est un personnage moderne.
Ah, c'est ce qui m'a frappé. C'est ce qui m'a frappé, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit ce livre.
Michel Tourny.
Robinson, c'est l'homme de la solitude. C'est l'homme du bricolage. Faites-le vous-même, n'est-ce pas ? C'est l'homme de, avec Vendredi, le problème du racisme, le problème du colonialisme, le problème de la vie à deux, tel que par exemple, il se pose psychologiquement pendant les cellules Gémini. On envoie deux hommes, il faut qu'ils ne s'entrégorgent pas. Au bout de trois jours, n'est-ce pas, ça pose un problème psychologique. Et puis alors, c'est l'homme du soleil, c'est l'homme de la vie au soleil. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les vacances, c'est le soleil, c'est la plage, c'est le bain de soleil, qui est une chose difficile, dure, pénible. C'est une ascèse, le bain de soleil, ça fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on veut être bronzé, on veut être un héros solaire, en métal. C'est la jeunesse inaltérable, le bain de soleil.
En vérité, sans habitude, dans toutes les nuits de nostalgie, en liberté, en négritude, dans le blues profond de la pluie aimée. Démolir tous les esclavages, inventer de nouvelles plages, aujourd'hui encore et demain. Chanter mon pays, musicien, aimé.
Robinson se trompe dans ses espérances. Voici en conclusion les tourments qui l'assaillent au lendemain du départ de la goélette. Hélas, le temps de l'insouciance et de la liberté serait-il fini ? Le hamac était vide. La chevrette Anda avait disparu. une peur panique envahit brusquement Robinson. Et si Vendredi était parti avec le Whitebird? Il courut vers la plage. Comme il s'y attendait, le navire avait disparu. La yole et la vieille pirogue étaient là, tirées sur le sable sec. Si Vendredi avait voulu rejoindre la goélette anglaise, il aurait emprunté l'une de ces deux embarcations. Pourquoi aurait-il fait cette traversée nocturne à la nage? Sur la plage, les oiseaux observaient un silence de mort. Robinson sentit une grande tristesse l'envahir. Alors il commença à battre toute l'île en appelant Vendredi. Il courut d'une plage à l'autre, des falaises aux dunes, de la forêt aux marécages, du chaos rocheux aux prairies, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus en plus convaincu que Vendredi l'avait trahi et abandonné. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors il se souvint de l'admiration de Vendredi pour le beau bateau blanc, et comme il se balançait heureusement en riant d'une vague à l'autre au-dessus des flots. C'était cela. Vendredi avait été séduit par ce nouveau jouet, plus magnifique que tous ceux qu'il avait construits lui-même dans l'île. Pauvre Vendredi. Car Robinson se souvenait aussi des horribles détails que Joseph le second lui avait donnés sur la traite des Noirs qui se pratiquait entre l'Afrique et les plantations de coton d'Amérique. Sans doute le naïf Indien était-il déjà au fond de la cale du Whitebird, dans les fers des esclaves.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudien avec à la technique Jean-Richard Dufour. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinche, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.